Short Stories avec Émilie Glory. L'intendant Ralph de Miss Mary Elizabeth Braddon, traduit de l'anglais par Charles Bernard de Rhône. Extrait du recueil « L'intendant Ralph et autres histoires » paru aux éditions Hachette en 1863. Chapitre 3. Une visite chez le recteur. Le soleil de juin dorait les eaux de la sombre rivière, et l'herbe poussait longue et touffue dans les prairies de la ferme grise, quand Dudley Carleon revint d'un long séjour dans la capitale et reprit son existence tranquille et uniforme de gentilhomme fermier. Il avait été absent de la maison une bonne partie de l'hiver et du printemps, ne revenant dans le Lincolnshire que de temps à autre pour n'y rester que quelques jours ou parfois une semaine, puis ensuite il retournait à Londres. La sœur de l'intendant avait quitté la ferme pour prendre un emploi à York, emploi moins pénible car son frère disait qu'elle s'était trop fatiguée dans cette grande habitation, et une vieille femme d'Aulnay avait été élevée aux fonctions de femme de charge de la ferme grise. Dudley Carleon, si c'était possible, était encore plus triste et plus taciturne à son retour qu'à son départ et paraissait certainement encore plus l'esclave de son ombre inséparable, Ralph, l'intendant. Côte à côte, le maître et le domestique marchaient tout doucement le long des bords de la rivière ou autour des vastes champs de blé, ou bien, appuyés sur une barrière placée dans les prairies pour entourer la récolte des foins, ils calculaient ce que produirait la moisson. Côte à côte, il flânait à la brume, examinant les bestiaux paître au bord de l'eau, et si par hasard quelqu'un eût pu écouter leur conversation, on eût presque toujours entendu Ralph l'intendant dire à son maître quelle immense valeur aurait la ferme s'il avait assez d'argent pour y faire des améliorations. Quelques jours après le retour de Dudley, Ralph fut une fois, par extraordinaire, absent de l'habitation. Son maître l'avait envoyé dans une ville où il y avait marché, éloigné de 10 000, pour quelques affaires relatives à la ferme, et il était plus que probable qu'il ne serait pas de retour avant la tombée de la nuit. Il existait un chemin communal traversant des sentiers de verdure et des champs de blé, ainsi que des prés appartenant à la ferme. Ce chemin partait d'un village situé à peu de distance d'Aulnay. Dans un de ces verts sentiers où quelques chevaux de trait étaient attachés, se promenait Dudley Carleon, tenant un livre à la main. Les horloges des églises des villages éloignés sonnaient alors 3 heures. Le maître de la ferme grise, ayant toujours la tête baissée en marchant, ne faisait point la moindre attention aux roses sauvages dans les haies, pas plus qu'aux boutons d'or dans les hautes herbes. Mais il fut soudainement tiré de sa rêverie par l'aboiement d'un chien à quelques centaines de pas de lui. Suivant des yeux la direction de ce bruit, il aperçut sur une petite élévation, sous un buisson d'aubépine tout près de lui, quelque chose de si brillant en couleur, d'un aspect si radieux, si léger et si aérien de mouvement, qu'il eût pu se tromper et prendre cette chose pour une nouvelle et jolie sœur des riantes fleurs sauvages de la haie. Mais, s'approchant un peu plus près de la fleur, il se trouva face à face avec une jeune fille, vêtue d'une robe de mousseline rose et coiffée d'un chapeau de paille rond. Elle avait presque l'air d'une enfant et était excessivement jolie. Elle était d'un blond très clair, et ses joues roses étaient encadrées d'une quantité de boucles dorées qui tremblaient et brillaient à la brise d'été et au chaud soleil de juin. Ses yeux étaient d'un bleu tendre, grands et doux, et exprimaient la candeur la plus innocente. Elle était de petite taille et tout ce qu'elle portait sur elle, depuis la dentelle qui garnissait son fin chapeau de paille jusqu'aux fleurs semées sur sa transparente robe de mousseline, flottait autour d'elle avec une grâce toute particulière. Si vous pouviez vous figurer une fée habillée par une couturière parisienne, peut-être auriez-vous une idée de la grâce exquise de cette charmante créature. Seriez-vous assez bon ? Dit-elle, pour m'indiquer le chemin d'Aulnay. J'ai voulu courir seule aujourd'hui, et je suis bien punie de mon entêtement, car je me suis égarée. Voilà une heure que je suis assise ici, patiemment, espérant voir passer quelqu'un. Le son de sa voix était la musique même, et son sourire, lorsqu'elle parlait, était aussi séduisant qu'elle était adorable. Dudley lui dit qu'il allait du côté d'Aulnay et demanda la permission de l'accompagner une partie du chemin. Il y avait un tel cachet d'homme comme il faut dans le ton de sa demande qu'après un court instant d'hésitation, la jeune fille accepta son offre et ils marchèrent côte à côte, le chien courant tantôt devant, tantôt derrière eux, en aboyant joyeusement. Pendant leur promenade, elle lui raconta qu'elle était en visite chez le recteur, qu'elle s'appelait Jenny Trevor, qu'elle était orpheline, que M. Marlowe était son tuteur et Agnès Marlowe sa plus chère amie. Ils avaient à traverser un champ tout proche de la maison de Dudley Carleone et de là le bord de l'eau jusqu'à Aulnay. Comme ils approchaient de la première barrière, sur la rive, un homme à cheval s'avança tranquillement vers eux. Cet homme, c'était l'intendant Ralph. Il se laissa glisser de cheval en apercevant son maître et, conduisant l'animal par la bride, se dirigea vers la barrière qu'il ouvrit pour livrer passage à Dudley et à Miss Trevor. « Vous êtes revenu de bonne heure, Purvis ?» dit Dudley. « Oui, monsieur. Les affaires se sont terminées plus tôt que je ne l'avais cru et je n'ai pas voulu m'amuser. J'ai pris des arrangements au sujet du foin pour la semaine prochaine, monsieur. » « C'est bien. » L'intendant Ralph continua à marcher, la bride à la main, auprès de la barrière ouverte. Et, sous ses cils noirs, ses yeux gris regardaient furtivement, mais d'un œil scrutateur, Jenny Trevor. Dudley paraissait horriblement embarrassé. Il jetait un coup d'œil de l'intendant à la jeune fille, comme s'il hésitait sur ce qu'il avait à faire. Puis il dit d'une manière fort confuse. « Je pense, Miss Trevor, que je n'ai plus besoin de vous importuner plus longtemps de ma société. L'avant-dernière barrière s'ouvre sur la grande route, et alors vous irez en droite ligne à Aulnay. » Il ôta son chapeau, mais ne lui offrit point la main, et avec un léger mouvement de surprise, elle salua, lui souhaita le bonjour et s'éloigna. « Eh bien, maintenant, » dit-il à Ralph, aussitôt que Miss Trevor fut hors de portée d'entendre, « Eh bien, maintenant, Master Carleone, » répéta Ralph, « quelle charmante jeune fille que celle-ci !» Son maître ne répondit pas à cette observation, mais s'appuya avec nonchalance sur le haut de la barrière, son menton dans ses mains. « Vous et elle, vous paraissiez joliment camarades aussi, » dit un peu après Ralph, avec un sourire. « Qu'est-ce que ça vous fait ?»« Peut-être rien. » Peut-être quelque chose. C'est une jeune femme qui demeure chez le recteur, dit Dudley, d'un ton bourru et comme si on lui arrachait chaque mot par force. Et je ne l'ai jamais vue de ma vie avant cet après-midi. Elle m'a demandé de lui enseigner le chemin d'Aulnay et je l'ai fait. Cela suffit-il ? Presque. Il faut que ce soit une jeune fille assez dégourdie pour être aussi familière. 8 jours après cet événement, Ralph Purvis quitta la ferme grise. Et Dudley Carleone devint un visiteur assidu du presbytère d'Aulnay. Ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que dans ses visites chez le recteur, il rencontrait rarement Agnès Marlowe. Si par hasard il arrivait qu'il la rencontrât à la maison, elle paraissait regarder vaguement par la fenêtre, ne lui parlant jamais, et ne lui répondant que par monosyllabes lorsqu'il lui adressait la parole. Et elle profitait toujours du premier prétexte venu pour quitter la chambre. Jenny Trevor se plaignit d'abord de ceci à son amie, mais Agnès était si silencieuse et si réservée sur ce sujet que Jenny, qui était toujours un peu dominée par la fille du recteur avec son œil noir, froid et sérieux et son visage maigre et pâle, n'osa point insister davantage. « Nous ne pouvons répondre de nos préventions, Jenny, » disait-elle. « Je n'aime pas Dudley Carleon. » « Mais vous n'avez aucune raison pour le haïr, n'est-ce pas, Agnès ?»« Aucune que je ne puisse concilier avec mes devoirs de chrétienne. »« Jenny Trevor, je suis la fille d'un ministre de l'Évangile du Christ. Je vais à l'église 3 fois le dimanche. Je rends visite aux malades et je donne mon argent aux pauvres. Et malgré tout cela, je ne puis être une bonne chrétienne. Et peut-être ne le suis-je point quand il s'agit de Dudley Carleon. Ne me parlez point de lui, ne me questionnez point, je le déteste. » Ses yeux noirs brillaient d'un éclat fiévreux et elle joignit ses mains grêles et minces en répétant « Au ciel, ayez pitié de moi et de mon âme, je le déteste. » Chapitre 4. Le jour des noces. Les gens d'Aulnay furent surpris de ne plus voir la sombre figure de Ralph Purvis parmi les faucheurs dans les prairies de Dudley Carleon. Mais le jeune homme dit à ses connaissances qu'on lui avait conseillé d'acheter une petite ferme dans le Buckinghamshire et qu'il en avait confié le soin à son intendant. Ralph avait été un contre-maître dur et brutal. Il ne fut regretté de personne si ce n'est par son maître, qui recevait presque toutes les semaines une lettre, écrite en caractères mal tracés et grossiers, portant le timbre d'un village du Buckinghamshire. Toutes les semaines aussi, Dudley Carleon allait à cheval jusqu'à Aulnay pour porter un bon sur la poste payable à Ralph Purvis, et ceux qui épiaient les mouvements du jeune homme commencèrent à dire que sa nouvelle ferme lui coûtait plus d'argent qu'elle ne lui en rapporterait. Mais avant la moisson, le bruit courut qu'il allait épouser une jeune fille ayant de la fortune, ou au moins ce qu'on appelait de la fortune à Aulnay. Jenny Trevor possédait 3 000 livres sterling. Elle serait majeure en septembre et, d'après l'opinion des habitants, elle était fiancée à Dudley Carleon. Était-elle sa fiancée? Non. Elle lui permettait de la suivre partout comme un gros chien hargneux mais fidèle suit un maître bien-aimé. Elle consentait à former avec lui un compromis tacite. Elle ne repoussait jamais ses silencieuses prévenances, ne se retirait jamais de sa société malgré la fréquence de ses visites au presbytère. « Je ne puis m'en défendre, » dit-elle un jour à Agnès. « Il est dans le salon en ce moment, je le sais, quoique je ne l'ai ni vu ni entendu entrer, et il faut que j'aille le retrouver, bien que je ne le désire point. Que dois-je faire, Agnès ? Venez avec moi, à Scarborough. Vous savez que je pars demain et que je ne reviendrai pas ici avant 2 ou 3 mois. Choisissez, Jenny, si vous voulez venir avec moi ou rester ici avec papa pour devenir la femme de cet homme. Agnès, j'irai avec vous. Les deux jeunes filles se mirent immédiatement à faire leur mal et prirent toutes leurs mesures pour partir le lendemain matin par le train express pour Scarborough. Mais, ce soir-là même, assis dans l'ombre de la croisée ronde du salon du presbytère, Dudley Carleone fit promettre à Jenny Trevor qu'elle serait sa femme le jour même où elle serait majeure. Après son départ, Agnès Marlowe la trouva pleurant d'une manière nerveuse, sa tête sur l'appui de la croisée ouverte et des fleurs de clématite se mêlant à sa brillante chevelure. « Jenny, qu'avez-vous ? « Il faut que je reste ici, Agnès, je ne puis partir avec vous demain. »« Vous êtes votre maîtresse, Jenny. Que le ciel vous soit en aide, si vous oubliez ce que je vous ai dit. » Les sanglots de Jenny furent sa seule réponse à cette prédiction. Que le premier épi de blé doré fût tombé sous la faucille, Monsieur Marlowe avait béni l'union de Dudley Carleone et de Jenny Trevor dans l'église d'Aulnay. Le jour de ses noces fut le jour de sa majorité, ainsi qu'elle l'avait promis à son prétendu. Tous les préparatifs se firent en secret, et d'après le désir de Dudley Carleone, on n'avait point envoyé d'invitation à Agnès. C'était une de ces magnifiques et brûlantes journées d'été que l'on voit souvent au commencement de l'automne. Les bestiaux paresseux dormaient dans les prairies basses et l'étroite rivière suivait son cours paisible sous le brouillard doré d'une brûlante après-dînée. Les champs de blé étaient éclatants de bandes de pourpre et d'écarlate et l'épi jaune bougeait à peine sur sa tige dans l'air calme. La mariée était ravissante, avec sa simple robe de mousseline et de dentelle flottant autour d'elle, avec toutes les boucles de sa chevelure d'or voltigeant au soleil. « Un beau couple !» disaient les paysans, groupés autour du porche de l'église. Chacun paraissait joyeux. Le marié lui-même avait quitté sa silencieuse réserve, tandis qu'un éclair d'orgueil et de triomphe brillait dans ses sombres yeux bleus. Un seul événement sinistre vint jeter un nuage sur la fin de la cérémonie. Au moment où Dudley Carleone quittait l'hôtel pour conduire sa jeune épouse dans la sacristie, il se trouva juste en face d'une éclatante tablette de marbre blanc, tablette si nouvellement placée le long du mur que le mortier et les crochets étaient encore humides et que les outils de l'ouvrier étaient épars, çà et là dans la stalle au-dessous. Consacrée à la mémoire de Martine Carleone, mort le 24 septembre 1849, âgé de 23 ans. Ce monument est élevé par son frère affectionné et inconsolable, Dudley Carleone. Le marbrier du village, homme négligent et paresseux, avait eu l'ordre de placer cette tablette il y avait plus d'un an et n'avait terminé son ouvrage que la nuit dernière. Lorsque la noce fut de retour au presbytère, les invités trouvèrent une voiture de la station arrêtée à la porte. « Agnès serait-elle de retour ?» dit Monsieur Marlowe. Si le visage de Dudley eût pu devenir plus pâle que lorsqu'il eut aperçu la tablette de marbre sur la muraille de l'église, il le serait devenu à ce moment. « Jenny, » dit-il, saisissant la petite main gantée qui s'appuyait sur son bras vigoureux. « Agnès Marlowe est folle. N'écoutez rien de ce qu'elle vous dira. Souvenez-vous de cela. »« Dudley, que voulez-vous dire ?»« Juste ciel, je sais ce qu'elle peut dire. Croyez-vous que je n'ai pas remarqué sa prévention contre moi ?» Pâle et avec une mise négligée, ses vêtements pleins de poussière et en désordre, attendu son voyage précipité, et ses longs cheveux noirs tombant sur son visage amaigri, Agnès Marlowe rencontra la noce dans le vestibule rempli de soleil. Elle ne parla ni à son père ni à Dudley, mais, saisissant avec force le poignet délicat de la mariée, elle dit « Suis-je arrivée trop tard ? Suis-je arrivée trop tard après tout ? Êtes-vous mariée ?»« Oui !» dit Dudley d'un ton ferme, la regardant avec un air d'impatience. Elle ne sembla ni le voir ni l'entendre. « Jenny, » répéta-t-elle, « êtes-vous mariée ?»« Oui, » répondit la jeune fille, frappée de terreur. « Oh, faut-il que j'arrive trop tard, que je n'ai point été avertie de cela à temps ? Mais venez, Jenny, venez avec moi dans ma chambre. »« Jenny, Mistress Carleon, je vous défends de la suivre, » s'écria le mari. « Vous lui défendez ?» répéta Agnès avec... « Vous lui défendez ?» répéta Agnès avec un rire rauque et discordant, tournant vers Dudley Carleon pour la première fois ses grands yeux brillants. « Dois-je lui dire ici, au pied de l'escalier, devant les domestiques, devant ces gens rassemblés, devant la porte, devant mon père, devant vous, dois-je lui dire ici ce que j'ai à lui dire, Dudley Carleon ?» Il se détourna pour éviter ses regards hagards et brûlants, et prenant son père à part, il lui parla bas à l'oreille. « Venez, Jenny, venez !» Elle traîna plutôt qu'elle ne conduisit la malheureuse jeune fille dans sa chambre, et, fermant la porte, elle tomba épuisée sur une chaise auprès du lit. Les fenêtres étaient ouvertes, les oiseaux chantaient bruyamment dans les chèvrefeuilles et dans les jasmins qui entouraient la maison. Les rayons du soleil éclairaient les visages pâles des deux jeunes filles. Jenny tomba à genoux, sanglotant et s'accrochant après la fille du recteur. « Oh Agnès, ayez pitié de moi. Souvenez-vous que c'est le jour de mon mariage. »« Je ne puis avoir pitié de vous, Jenny. Je ne puis me souvenir de rien. Je vous dis que mon cœur n'est point assez grand pour contenir autre chose que de la haine contre lui. »« Agnès, si je broie votre cœur comme mon cœur a été broyé, si je flétris votre existence comme la mienne a été flétrie, quand bien même il vous serait aussi cher que défunt son frère m'était cher, je parlerai. » Savez-vous ce que c'est que cet homme que vous avez juré d'aimer et de chérir ? Agnès, Jenny Carleon. Oh, malheur qu'il me faille vous appeler de ce nom. Lorsque je reçus la lettre de mon père ce matin m'apprenant votre mariage projeté, je crus que je deviendrais folle. Mais ne me jugez point d'après mes yeux hagards et mes manières excentriques. Écoutez-moi, malheureuse fille, je ne puis vous dire ce que je sais. Je ne puis vous dire que ce que je pense si fermement. Que mes paroles dussent elles-mêmes vous faire mourir à mes pieds, je vous le dirai plutôt que de vous voir franchir le seuil de la porte de la maison de cet homme. « Oh Agnès, le jour de mon mariage, le jour de mon mariage !» Elle élevait ses mains comme pour se garantir de ses cruelles paroles, comme si elle se fût mise en garde contre un coup. Dudley Carleon a empoisonné son frère Martin. Un long et douloureux gémissement s'échappa des lèvres blêmes de la mariée, et elle tomba en convulsion aux pieds d'Agnès, les boucles brillantes de sa chevelure traînant à terre en masse entremêlées. « Je n'ai pas de preuve de ceci, sans quoi j'aurais fait retentir ces preuves d'un bout à l'autre du pays. Je n'ai pas de preuve, mais j'en ai la conviction. » Jenny souleva son pâle visage qui était appuyé par terre, et se traînant à genoux, elle regarda celle qui parlait. « Point de preuve ? Aucune, mais je le sais, je le sais. J'étais à la ferme grise la nuit de la mort de Martin Carleon. J'ai vu cet homme, avec un visage décomposé et la main tremblante, s'occuper des fioles à médecine. C'est sa main qui lui présenta la potion qui devait le calmer, mais qui seulement accrut sa fièvre dévorante. C'est son ombre noire qui n'a jamais quitté son lit de douleur. Fidélité ? Dévouement ? Oui, la fidélité d'un meurtrier pour atteindre son but épouvantable, le dévouement du bourreau pour son innocente victime. Jeune fille, nos yeux ne se rencontrèrent qu'un instant dans cette nuit terrible, et dans ce seul coup d'œil, je vis et connus son crime, sa faute. Je le sais, et il sait bien aussi que je le sais. Agnès, Agnès, Martin Carleon mourut des suites d'un poison lent, administré par son frère. Maintenant, retournez vers votre époux. J'ai fini. Mistress Carleon. Oh Agnès, combien vous êtes cruelle, sans cœur, sans pitié, sans sentiment chrétien. Et c'est sur un vague soupçon, sur une idée aussi peu fondée qu'elle est abominable, que vous voudriez flétrir un homme innocent ? Je vous plains, Agnès, d'être victime d'une si horrible erreur. Elle se releva, et se dirigeant vers une table de toilette, elle essuya ses larmes qui l'aveuglaient, et arrangea ses boucles de cheveux d'une main qui tremblait à peine. En s'occupant ainsi, elle interrogeait la réflexion du visage bouleversé d'Agnès dans la glace placée devant elle. Elle commença à croire que Dudley Corleone avait raison, et qu'en effet, le chagrin avait rendu folle la fille du recteur. Agnès s'assit sur le petit lit blanc. Avec des yeux caves, elle suivit les mouvements rapides de Jenny devant la toilette. « Dieu nous vienne en aide, à toutes les deux, » murmura-t-elle en joignant ses mains défaillantes. « Dieu nous vienne en aide et nous envoie sa lumière pour nous éclairer dans ce monde si sombre et si noir. Je serais morte si je n'avais point parlé. » C'était l'intendant Ralph, une nouvelle de Marie-Elisabeth Braddon, telle que l'a publiée l'éditeur Hachette en 1863, d'après une traduction de Charles Bernard de Rhône. Les intermèdes musicaux étaient extraits de l'album Poirot, une série de morceaux composés par le Britannique Christopher Gunning pour les besoins de la série télévisée du même nom, avec David Suchet. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Grand Ciel, radiograndciel.fr. Rendez-vous le mois prochain pour la suite de cette histoire.